D'avoir organisé ceci. Merci au Rav Grandstein de nous accueillir dans ce lieu que je ne connais pas, que je ne connaissais pas et que je comptais découvrir aujourd'hui en écoutant Dany Trom. Donc j'avais pris mon billet de train pour pouvoir écouter Dany Trom. Alexandre m'ayant dit à plus d'une reprise qu'il était opportun de prendre la température du séminaire, d'être présent pour envisager ensuite, le cas échéant, d'intervenir. Donc je comptais être participant et me voici de manière impromptue à donner cette communication. Donc j'ai donné comme titre deux cultures. Vous voyez peut-être l'allusion qui est faite à l'ouvrage de Snow sur les deux cultures qui ne communiqueraient pas assez en Occident, la culture littéraire et la culture scientifique. Je ne vous parlerai pas de la distance qui sépare ces deux cultures-là, je vous parlerai de la distance qui sépare deux autres cultures. Et pour vous vendre la mèche déjà, on pourrait dire que les deux cultures dont je parle, au fond, sont le judaïsme et le christianisme. Mais je ne vous parlerai pas non plus des liens entre judaïsme et christianisme. Ce n'est pas ça. Je l'apporterai de manière indirecte. Et dans le petit résumé qui a été proposé, je parlais pompeusement d'un triple exil, peut-être dans une veine un petit peu de théorie politique, ou comme hommage à Dany Trom. Et ce triple exil était mentionné de la manière suivante: langue, terre et souveraineté. Nous vivons dans l'exil de la langue. Alors, de quelle langue? C'est un débat, mais bon, pendant plus de 15 siècles, l'hébreu n'était la langue maternelle de personne. La terre est une évidence, je veux dire, l'exil de la terre est une évidence, et la souveraineté, tant Dany Trom que Samuel ici présent, je pense, étudie cette question de la, et David d'ailleurs, de la délicate souveraineté d'un système qui n'a plus son territoire, qui n'a plus toute son autonomie. Et je vous parlerai d'autre chose, je vous parlerai d'un autre exil, l'exil du droit. Alors, l'exil du droit, de quoi s'agit-il? C'est une question difficile. Ce n'est pas si difficile de l'expliquer. Je ne suis même pas sûr que ce soit difficile de le comprendre. Mais c'est difficile pour moi de mettre des mots là-dessus parce que c'est quelque chose d'à la fois intime et de tenace un petit peu partout, à mon sens, en Occident. L'exil du droit dont j'essaie de parler, c'est le fait que pour différentes raisons que j'ai déjà exposées, donc vous m'excuserez pour les quelques-uns qui m'ont déjà entendu, j'ai déjà exposé ces raisons ailleurs, mais pour différentes raisons, indépendamment du judaïsme, en Occident, on connaît un exil du droit, c'est-à-dire que nous vivons en Occident dans une civilisation anormale. Anormal au sens de René Guénon. Vous savez, René Guénon nous parle, on n'a pas souvent l'occasion de le citer à l'université, mais René Guénon nous parle des civilisations normales et des civilisations anormales. Les civilisations normales, selon René Guénon, sont celles qui auraient reçu en partage la tradition primordiale. Alors, c'est un auteur qui considère que la Bible vient relativement tardivement dans l'histoire de l'humanité. Et René Guénon désigne comme anormal ces étranges civilisations, pour lui l'Occident, qui n'auraient pas reçu en partage cette tradition primordiale. Autrement dit, pour René Guénon, penseur de la tradition, l'Occident est malade. Mais sa maladie consiste dans le fait qu'il a perdu son lien avec cette tradition. Alors, il ne sera pas ici, aujourd'hui, question de cette tradition primordiale. C'est quelque chose d'assez obscur. C'est une notion qu'il se donne plus qu'il ne la démontre. Mais ça ne devrait pas gêner la plupart des gens ici, qu'on se donne certaines notions. C'est normal, hein, sinon on fait de l'axiomatique et c'est un petit peu plus sec. Mais, en l'occurrence, je voudrais parler également de l'Occident comme d'une civilisation anormale, mais pas du même point de vue que René Guénon, du point de vue de son rapport ambivalent au droit. Et ce rapport ambivalent au droit, il s'explique par deux phénomènes que je vais brutalement résumer, parce que c'est un petit peu plus compliqué, de la manière suivante. L'Occident, c'est une formule, hein, vous me direz si elle vous convainc ou pas, peut être présenté comme le fruit d'une religion, le christianisme, amputée de son droit. Là, je suppose que le christianisme entretient encore un rapport avec la Bible hébraïque, y compris le Pentateuque, y compris avec les centaines de versets juridiques, mais que ce rapport n'est plus juridique, ou pas entièrement juridique, ou beaucoup, beaucoup moins juridique que ne l'est le christianisme. D'une certaine façon, si on met de côté dans le catholicisme le droit canonique qui ne régit que marginalement la vie des ouailles catholiques, d'une certaine manière, le christianisme aurait pu adhérer à certains courants comme le marcionisme qui aurait rompu une fois pour toutes avec le Pentateuque, mais le christianisme n'a pas choisi cette direction-là, il a conservé en son sein dans les textes canoniques, fût-ce en grec ou en latin, ce qui est appelé l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Donc un rapport extrêmement ambivalent avec un texte manifestement juridique, lu d'une manière non juridique. Donc il y avait des solutions beaucoup plus faciles, ou bien entretenir un rapport juridique comme les Juifs, avec un texte juridique, pour le dire simplement, ou bien se passer de ce texte. Mais l'idée de conserver ce texte tout en posant sur lui un regard dissocié, à savoir je vais lire des commandements, ce qui s'apparente à des commandements, mais en en tirant que la morale, pas en en tirant la morale comme on fait dans le Talmud, sans apostrophe, en en tirant que la morale, en réduisant le droit à la morale, eh bien ça donne lieu à une religion un petit peu atypique, qui est le christianisme. Donc on pourrait considérer que le christianisme se distingue du judaïsme par des raisons de fait, qu'un messie a été reconnu, ou plutôt qu'il reconnaisse quelqu'un comme étant le messie, certes, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus en termes de typologie des systèmes, c'est de constater que le christianisme a conservé un lien intense avec un texte qu'il lit d'une manière atypique, puisque c'est un texte, pour le dire simplement, juridique, et qu'il le lit de manière non juridique. Et vous me répondrez, évidemment, vous aurez raison, que ce texte n'est pas que juridique. C'est normal, c'est une réaction allergique normale lorsque j'explique cette chose-là. Ce n'est pas grave, c'est que simplement nous-mêmes contemporains, nous pensons que juridique, ça veut dire, comme le code civil, qui ne contient que du droit. Et le droit n'est pas la loi. La loi n'est qu'une des sources du droit. Donc, vous pourriez me répondre déjà que la Torah, ce n'est pas que du droit, évidemment, mais c'est ça le droit. Le droit n'est pas que du droit. Le droit n'est pas le code civil, la Bible n'est pas composée après 1789. La Bible est comme les droits anciens, hétérogène, composite, contient des éléments non juridiques, mais son genre littéraire est juridique. De même que dans des romans, je choisis chaque fois le même roman, je pourrais au moins renouveler ça, de même que dans Les Minérables, il est question abondamment, régulièrement de droit. Mais ça reste une fiction, ça reste un roman, ça ne devient pas un texte de droit. De même, dans la Bible, il est question abondamment de choses qui ne sont pas du droit. Cela n'affecte pas la nature du genre littéraire. Bon, j'écrirai, ça me rassure un petit peu, ça me donne une contenance, j'écrirai de temps en temps des mots au tableau. Ce sont des auteurs qui existent vraiment.
Je vais peut-être prendre cette place.
Comme tu veux, en tout cas j'écris ici. Donc là, je m'inspire d'un très grand auteur, pour des raisons étranges, très peu lu, et tout le monde ne lit que les textes qu'il ne faut pas lire de lui. Tout le monde lit Figure. Vous avez tous, si vous avez du Genève chez vous, vous avez tous Figure de Genève, mais ce n'est pas ça qu'il faut lire. Il faut lire ses livres sur les genres littéraires. Donc je cite simplement, à mon avis, les deux auteurs principaux, d'excellents auteurs français, Jean-Marie Schaeffer et Gérard Genette, qui sont les théoriciens des genres littéraires. Et la notion même de genre littéraire est très complexe. Elle s'origine dans le romantisme allemand. Mais cette notion permet de jeter un éclairage tout à fait opportun sur les différents genres littéraires, sur les différents types de textes de de Chazal, disons, pour ne pas le limiter, pour ne pas limiter Chazal au Talmud. Donc nous avons une religion atypique, le christianisme, qui développe une lecture inédite, non juridique, post-juridique. En fait, le christianisme est un système post-juridique d'un texte qui est manifestement, je sais que c'est pas évident, mais que je considérerais comme juridique, même si il contient de larges segments qui ne sont pas juridiques. Donc ce n'est pas que de la loi, ce n'est pas que des commandements, évidemment, dans la Bible. Et donc l'Occident repose sur la combinaison de cette religion étrange et d'un droit étrange qui est le droit romain, qui, lui, a connu un autre processus qui est celui de la sécularisation. Je m'appuie ici sur un ouvrage de Schiavone, qui s'appelle Ius, évidemment, un vieux Schi, excusez-moi, S-C-H-I-A-V-O-N-E, Ius, vraiment, quand on a le professeur italien de droit romain et qu'on écrit un livre important, on l'appelle Ius, le droit, sous-titre scandaleux, l'invention du droit en Occident. Je ne vais pas l'écrire, mais le sous-titre, c'est l'invention du droit en Occident, ce qui est scandaleux parce que, évidemment, le texte porte sur quoi ? Sur l'invention du jus. En fait, il dit, mais c'est un travers typique des professeurs occidentaux, il dit que ce sont les Romains, en laïcisant le droit et en le confiant à des professionnels du droit, qui inventent le droit. Il invente le jus. Je veux dire, c'est... Dire que les Romains ont inventé le droit, c'est démesuré, c'est de l'hubris. Évidemment, dire qu'ils inventent le jus, c'est beaucoup plus faible, mais c'est le cas. Ils ont inventé une nouvelle manière de faire du droit, qui est sécularisée, qui est laïcisée, et qui est confiée à des professionnels. Nous avons désormais des gens dont le métier est le droit, à l'exclusion des autres. Donc on introduit dans la société la distinction entre juriste et non-juriste. Est-ce que cette distinction existe dans le judaïsme ? Je suppose que non. Bien. Donc nous avons cette civilisation étrange, anormale, l'Occident, et je propose de résumer son anormalité par cette combinaison entre une religion amputée de son droit, déjuridicisée, c'est pas très beau, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant, et d'un droit sécularisé, laïcisé. De sorte que le rapport au droit en Occident est extrêmement contrarié, au point que ceux qui veulent vraiment avoir un rapport avec le droit n'ont quasiment pas d'autre choix que de devenir juriste. Ce qui, vous le reconnaîtrez, est un choix assez extrême. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors moi, je suppose que vous comprenez ce que je dis, tant que vous ne vous manifestez pas. Bien, alors je vais commencer par les conséquences les plus éloignées et puis me rapprocher petit à petit de l'individu. Quelles conséquences ceci a-t-il sur l'université ? Eh bien, ça a comme conséquence, bonjour, que les facs de droit enseignent le droit. Et je ne sais pas quelles sont les études. Enfin, si vous avez fait des études ou pas, mais si vous avez étudié, par exemple, la philosophie, il y a des chances qu'on n'enseigne pas le droit en philosophie. Il y a des chances que si vous étudiez la philologie, on n'enseigne pas le droit, alors que les premiers textes, parmi les premiers textes de la langue française, il y a les textes juridiques. Et ceci conduit à une situation extrêmement tendue, puisque au lieu que le droit soit réparti de manière normale, pour reprendre les termes de Guénon, eh bien, il est réprimé dans des facultés qui ont longtemps été conservatrices, bon, qui ne le sont plus tellement, et ces facultés de droit enseignent l'histoire, évidemment, l'histoire du droit. Et qu'ont étudié les historiens du droit ? Pardon ? Non, alors vous pouvez presque être sûr qu'ils n'ont pas étudié la Bible, ils n'ont pas ouvert la Bible. Les historiens du droit, normalement, ont étudié l'histoire. C'était la réponse que je... que je sollicitais pour en proposer une autre. Non, les historiens du droit sont des juristes. C'est-à-dire que vous avez une faculté tellement conservatrice que même les historiens sont secrétés par ses propres techniciens. Les historiens du droit n'ont pas fait d'histoire. Donc ça donne lieu à quelque chose de très étrange. De même que l'histoire du Talmud va souvent être écrite, et heureusement, par des talmudistes qui n'ont pas fait d'histoire, qui à la limite ne savent pas quel roi règne à l'époque de Rachi. Parce que ce n'est pas un problème. Pour un historien du Talmud, ça ne pose pas véritablement de problème. Et bien de même, les historiens du droit sont des juristes. Et ils ont appris l'histoire du droit au travers de juristes. C'est pour ça que l'histoire du droit a longtemps été très dogmatique. Dogmatique au sens noble, l'histoire de la dogmatique, l'histoire de l'interprétation des textes par les textes, sans nécessairement recourir à tous les outils des historiens. L'idée même qu'en philosophie, on n'enseigne pas le droit, eh bien, est étrange. Et je voudrais qu'on essaye de se défamiliariser avec cette absence. Il y a des civilisations où le droit est présent à table. De la même façon que la culture générale se transmet dans les familles à table, notamment, eh bien, le droit s'enseigne à table. Il se fait qu'en Occident, non. Le droit ne s'enseigne tout simplement pas. On sait qu'on ne peut pas traverser, éventuellement quand le feu est rouge, ou qu'on ne peut pas tuer. Mais c'est extrêmement minime par rapport à l'enseignement d'un droit qui est extrêmement complexe et riche, qui est le droit occidental. Mais il est confiné. Il n'est pas confiné depuis 4 ans, il est confiné depuis près de 2000 ans. Et ça a une influence déterminante sur l'organisation des savoirs à l'université. Les juristes sont démunis dès qu'il s'agit de sciences humaines. Ça change hein, depuis 20 ans ou 30 ans. Et les autres sciences humaines, souvent, ne sont pas exposées à des cours de droit. C'est tout à fait étrange. En fait, on ne se rend pas compte de la violence que constitue cette répartition, cette nouvelle répartition de l'enseignement du droit, uniquement pour les juristes. Ces juristes n'étant même pas exposés aux sciences humaines, on va fabriquer des sociologues du droit qui sont des juristes, en fait, qui n'ont pas fait de sociologie, des historiens du droit qui n'ont pas fait d'histoire, et on va conserver cette ligne extrêmement marquée entre les juristes et les non-juristes. Ce n'est pas tant que la ligne passe ailleurs dans le judaïsme, parce que souvent, en Occident, par exemple, entre droit et morale, la ligne ne passe pas exactement au même endroit. D'accord ? Mais ici, ce n'est même pas ça. C'est qu'on introduit une nouvelle ligne. Il n'y a pas, à ma connaissance, une telle ligne qui séparait les juristes et les non-juristes, puisque je suis bien dans ne fût-ce que dans le Sidour. Si on considère que le Sidour, c'est le service syndical, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais si on considère que le Sidour, c'est le service syndical de l'étude, le service minimal, disons, eh bien, il contient tout de même beaucoup de droits. Et j'ajouterais que, là, je vous parle de l'université, mais l'enseignement secondaire et primaire, c'est encore plus grave. Sauf dans quelques filières qui ne sont pas les plus élitistes, on n'enseigne pas à ma connaissance, ou peu le droit jusqu'à nos 18 ans. Et donc à 18 ans, on a le choix, ou bien on fait du droit et uniquement ça, quasiment, ou bien on ne fera plus jamais, on fera jamais de droit. Donc à quel moment entretient-on un rapport avec le droit dans cette civilisation qui est le fruit de cette combinaison d'un droit laïcisé et d'une religion déjuridicisée ? Eh bien, jamais ou toujours. Autrement dit, en Occident, on entretient un rapport alcoolique avec le droit. Ou bien on n'y touche pas, on est abstinent, ou bien on ne fait que ça. Mais un rapport normal, généreux, bienveillant, intellectuel avec le droit, il n'en est guère question. D'ailleurs, et je le regrette, mais je le constate, on peut, nous disait Snow dans sa conférence sur Two Cultures, on peut être un homme cultivé, une femme cultivée, sans connaître la biologie ou la physique, c'est encore le cas aujourd'hui. Ce qu'on appellera volontiers quelqu'un de cultivé, même s'il est illettré scientifiquement. C'est le cas encore, je pense. De même, mais ça me fait encore beaucoup plus mal, on appellera volontiers quelqu'un cultivé, même s'il est illettré en droit. Et il sera illettré en droit. Il sera quasiment forcément illettré en droit, puisque, eh bien, si on étudie le droit, il semble qu'on ne doit faire quasiment que ça. Il y a des petites exceptions, comme Sciences Po, où il faut un petit peu de droit public. Mais, enfin, je parle sous le contrôle de ceux qui sortent de ces écoles. Mais, en gros, ça nous dissocie tout de même beaucoup du droit privé. Or, le Talmud, c'est surtout du droit privé. Donc, même si vous avez une formation en droit public, finalement, le Talmud constitue un objet inassimilable en Occident. Inassimilable. Là, j'ai parlé de l'université, brièvement. J'avance pour vous parler de la maison. Alors, vous connaissez peut-être Chaim Soloveitchik. Il a écrit un article qui a fait grand bruit. Allez, je vais mettre « E ». C'est « and » en anglais, mais je vais mettre « E ». Il n'est pas traduit, je crois. Rupture et reconstruction. Et dans cet ouvrage, ce qui est devenu un ouvrage, c'était un long article, il explique que l'enseignement du judaïsme s'est déplacé. Il a déserté la maison, il a fugué. Il s'est blotti dans les bras du Rosh Yeshiva. Nous dit Soloveitchik, le judaïsme s'enseigne au travers de deux canaux. Le canal mimétique et le canal explicite. Et mimétique, en hébreu, peut-être vous pensez à un mot qui pourrait rendre compte de ce canal mimétique, le... Plus général, mimétique, le fait d'imiter quelqu'un. Pardon ? Non, c'est peut-être ma description n'est pas claire. Pardon ? Non, l'imitation. Vous imitez la manière dont le papa, la maman, le grand frère ou le rabbin, c'est plus facile. Aujourd'hui, si je vous dis la manière dont on imite le rabbin, tout à coup, vous y pensez. C'est le... Le chimouche. C'est un des usages de chimouche. Ce n'est pas que fréquenté, mais c'est aussi l'imitation. En tout cas, lui, il appelle canal mimétique la manière dont le judaïsme a longtemps été transmis à la maison, indépendamment de la manière dont il était transmis à l'extérieur. De sorte que, nous dit Chaim Soloveitchik, jamais un décisionnaire, un possek, n'aurait osé entrer dans la cuisine de sa maman, qui, à mon avis, était irréprochable à tout niveau, pour lui dire que ce n'est pas comme ceci qu'on pratique. Pourquoi ? Parce qu'une assurance accompagnait sa maman, dans la manière dont elle avait reçu de sa maman, la manière dont on pratique la cuisine, la manière dont on respecte la halakha. Et nous dit-il, dans Rupture et Reconstruction, ce canal-là a toujours été complémentaire du canal scolaire, si vous voulez, de l'enseignement par les livres, par l'étude. Mais vers le milieu du XXe siècle, non sans lien avec la Deuxième Guerre mondiale, mais pas uniquement en raison de la Deuxième Guerre mondiale, le canal domestique, mimétique, s'est retrouvé asséché au profit du centre de la yeshiva, non pas de la synagogue, mais de la yeshiva. La synagogue non plus n'est pas tellement devenue le lieu de la transmission, mais le lieu de l'application. Et dès qu'un doute était soulevé, eh bien, le réflexe est devenu de consulter des livres. L'idée de consulter un texte pour répondre à une question, pour dissiper une incertitude, nous semble, je crois, normale. Il y a un doute, on se tourne vers le livre, si le livre existe, s'il est sous la main. On peut poser la question à quelqu'un dont on sait qu'il a lu des livres. Mais l'idée de se tourner vers quelqu'un qui a appris cette chose-là de quelqu'un nous paraît moins évidente, dit Soloveitchik, que ça ne l'était avant. Et donc, je vais vous citer un autre ouvrage qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti à peu près en même temps. C'est de Moshe Koppel. Alors Moshe Koppel est sorti du quasi anonymat dans lequel il était pendant 20 ans, parce qu'il a inspiré la réforme de la Cour suprême en Israël, mais nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Mais il a écrit il y a 3-4 ans un livre qui s'appelle Judaism Straight Up, qui devait s'appeler Shimon. Et je vais quand même écrire son titre abandonné. Shimon. Et Shimon, dans son ouvrage, est un vieux monsieur qui entretient avec la tradition un rapport organique salué par Koppel. Et cet ouvrage-là, Judaism Straight Up, il écrit en réponse. Il doit avoir 60 ans, Moshe Koppel, peut-être 68, je ne sais pas. En réponse à une étudiante qui l'a fréquenté à Princeton, je pense, et qui lui disait, mais Moshe, comment est-ce qu'un garçon intelligent comme toi peut encore croire à des salades d'une religion rétrograde comme la tienne? Donc il a pris 40 ans. Il répond enfin à cette étudiante avec qui il s'entendait bien. Et Shimon est l'un des personnages du livre. Et c'est le personnage auquel on a envie de s'identifier. Le problème, c'est que Koppel nous dit que Shimon n'existe plus. J'ai oublié les prénoms, d'accord? Donc, peu importe. Mais c'était Heidi, l'étudiante. Il y a des juifs comme Heidi, c'est-à-dire avec une forte personnalité juive, mais qui ne voient pas du tout la nécessité de se contraindre par une tradition, d'embrasser une tradition au point de contraindre sa liberté. Et il y a un autre personnage qui est l'enfant qu'on envoie en yeshiva et qui revient à la maison. Alors je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cette scène, mais moi je connais cette scène pour y avoir assisté plusieurs fois. Il rentre de la yeshiva et il dit à son papa, non mais c'est pas comme ça qu'on fait le thé à Shabbat, c'est pas comme ceci qu'on fait cela, c'est pas comme ça qu'on fait la bénédiction pour le talit. C'est pas dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Et tant mieux. À la limite, vous envoyez un enfant étudier, il revient avec des connaissances, c'est évidemment une très bonne chose. Simplement, nous dit Koppel, cela contribue à la dissociation entre plusieurs groupes de gens. On a les Heidi, qui sont des... bon, il se fait que c'est une femme, ça aurait pu être un homme. Des juifs progressistes, détachés de la tradition, même si elle conserve des traditions. Des traditions, ça n'a aucun rapport avec la tradition. Et on a des gens qui reviennent de yeshiva, souvent, pas toujours, mais un petit peu, dans le cas où ils ne viennent pas d'une famille aussi religieuse, un petit peu rigidifiés. En tout cas, ça peut arriver. À tout le moins, ce sont des personnages, évidemment, un peu caricaturaux, mais qui capturent, je crois, une réalité. Et Moshe Koppel se désole du fait qu'il n'y a plus un Shimon. Et Shimon avait fui l'Europe, était arrivé à New York. Il connaissait cette philote, il connaissait la halakha. Il n'était pas au kollel, il avait travaillé un petit peu des petits métiers. Et disait-il, de temps en temps, il s'écartait. Ça va faire plaisir aux plus progressistes. Tout le monde se retrouve dans Shimon. Il s'écartait de la loi. Il prenait sur lui, comme on dit. Il assumait le fait de temps en temps de faire un écart par rapport à la halakha. D'accord ? Il n'était ni Heidi, qui n'en avait plus que faire de la loi juive, ni le garçon qui revenait de la yeshiva et qui ne jurait que par ces lois-là. Il entretenait un rapport organique et, pour reprendre Guénon, un rapport normal avec la tradition. Et Moshe Koppel, qui évidemment se rêve comme le nouveau Shimon, mais bon, Moshe Koppel déplore l'inexistence ou la disparition des gens comme Shimon. Donc ces deux livres, ils vont un petit peu ensemble, à mon avis. Celui de Chaim Soloveitchik. Donc Chaim Soloveitchik, c'est l'historien. Il est évidemment issu de la famille que vous connaissez. Mais c'est un historien, un médiéviste, qui a fait des très bonnes choses. Je crois qu'il a fait sa thèse doctorat sur le... Il y a une Nesser, donc sur le vin produit par des non-juifs, mais bon, au Moyen-Âge. Et sur les... Il a beaucoup écrit sur les sacrifices pendant les croisades, sur des décisions qui ont été prises pendant les croisades, qui ne correspondent d'ailleurs pas à ce que la halakha prévoit, mais qui étaient courantes, explique-t-il. Donc Koppel et Soloveitchik, tous les deux, contribuent à poser un diagnostic sur un judaïsme contemporain qui ne verrait plus dans la maison le, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais le lieu de la source du droit, le lieu de l'enseignement normal. Je ne dis pas qu'on peut prendre quelqu'un sur le côté et réviser des halakhot psukot, c'est évidemment qu'on peut le faire. On peut étudier des lois applicables, du droit applicable dans un endroit de la maison, ce n'est pas ça le point. C'est que le lieu n'est plus, la maison n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins évidemment, le lieu de l'enseignement naturel. De la même façon que nous avons appris des mots, et on ne sait plus, normalement, on ne sait plus quand, à quel âge on a appris tel ou tel mot, si tu vois bien. De même, nous disent ces deux auteurs, on apprenait le judaïsme sans savoir qui nous avait appris quoi, en voyant la manière dont c'était fait. Et donc, ce qui n'excluait évidemment pas d'aller étudier en yeshiva. D'accord ? Mais ça donne à l'enseignement qu'on reçoit à la yeshiva un poids tout à fait différent. Désormais, nous disent-ils, il y a une concentration de l'enseignement du judaïsme dans les yeshivot et les kollel, hein, c'est assimilé ici, au détriment de la maison. Et le troisième moment, on a parlé de l'université, de la maison. Je serai bref là-dessus, mais la personne elle-même. Notre rapport, je vais parler pour moi, mais je crois et j'espère que ça concerne tout le monde, le rapport au droit est détérioré. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on connaît qui raisonnent juridiquement, ce sont des gens qui ne sont pas très sympathiques. Ce sont des gens qui ne sont pas très sympathiques. Mon directeur de thèse me disait n'avoir pas épousé son épouse, non, c'est pas ça, n'avoir pas épousé sa compagne, pour ne pas introduire du droit dans son foyer. Eh bien, je crois qu'il est l'expression typique de l'Occident, qui, s'il pouvait se passer de droit, surtout dans les choses intimes, le ferait. Et il me semble que, longtemps, le judaïsme a entretenu un rapport intime avec le droit. Mais ça fait des siècles et des siècles que, évoluant dans une civilisation où le droit est scotomisé, est refoulé, eh bien, même de soi-même à soi-même, on est perçu de manière négative. Je crois qu'on se perçoit soi-même négativement quand on raisonne by the books, de manière juridique, parce que, comme en Occident, il y a une réduction du droit à la loi, dès qu'on raisonne juridiquement, en fait, on raisonne légalement. Et alors, évidemment, c'est très violent. Mais introduire du droit dans un rapport amical, finalement, c'est étrange en Occident, mais c'est le cas dans le judaïsme. Il y a beaucoup d'interactions qui régissent les rapports entre deux amis. Et normalement, si tout va bien, si le judaïsme est enseigné d'une manière bienveillante, mais sans mettre sous le tapis le droit, normalement, régulièrement, les questions juridiques se posent, même dans une relation amoureuse ou conjugale, disons, ou amicale, ou entre collègues. Mais ça sonne, enfin, je ne sais pas si vous pensez à des anecdotes comme moi, mais ça peut sonner étrange, tout à coup, d'introduire une considération juridique. Typiquement, quand il y a un prêt d'argent, prêt de 50 euros, c'est presque normal. En fait, tout l'Occident nous souffle à l'oreille de dire merci, parce que c'est bien de dire merci. On nous rend un service. Il se fait que dans le judaïsme, dire merci, c'est déjà, ou se comporter d'une manière un petit peu plus favorable, c'est déjà enfreindre une règle, peut-être uniquement des rabananes, mais c'est déjà courir le risque de faire un prêt à intérêt. Pas au sens de la Torah, mais au sens peut-être des rabananes. C'est un exemple parmi mille. Et donc l'idée même de renouer avec le droit, ce serait héroïque. Et quand je dis héroïque, je ne veux pas dire que c'est se comporter comme un héros. Parce que, évidemment, il est difficile d'être un héros, d'être un justicier. Mais le justicier, si d'aventure vous avez lu des ouvrages avec des justiciers ou vu des films avec des justiciers, le justicier, il ne respecte pas la loi. Le justicier, c'est celui qui va tricher avec la loi pour promouvoir la justice, pas la loi, pas le droit, la justice, d'une valeur encore plus haute. C'est-à-dire que prendre un raccourci vers la justice en sautant au-dessus du droit, ça, c'est l'image romantique par excellence. C'est celui qu'on voudrait tous être. Enfin, je ne dois pas vous citer tous les grands héros qui sont de Tintin à Superman, en passant par beaucoup d'autres, qui, ce sont des délinquants. Bon, alors, évidemment, c'est extrêmement séduisant. C'est eux qu'on veut être. J'ai fait mon deuil. Mais quand je disais héroïque, je ne voulais pas dire faire le héros, mais renouer avec le droit est une démarche héroïque. Si renouer avec le droit veut dire s'abstenir, si j'ose dire, de la relation alcoolique qu'on peut avoir avec le droit. C'est-à-dire renoncer à ne pas en faire du tout, comme c'est le cas dans de très nombreuses sphères de l'Occident, ou ne faire plus que ça, n'envisager le monde plus qu'en termes juridiques, ce qui peut être évidemment pénible, que ce soit la halakha ou le droit plus généralement. Donc l'exil dont j'essaie de parler aujourd'hui, eh bien, il concerne, paradoxalement, le droit lui-même. C'est le droit qui est en exil. Nous sommes en exil, c'est bien connu, mais le droit lui-même s'est retiré, il s'est confiné, et nous avons, enfin j'ai, je suppose, toutes les difficultés du monde à réintroduire un petit peu de droit dans certaines matières, dans certains contextes où il est persona non grata. Je vous donne juste un exemple. J'aime l'idée de faire de la philosophie juive qui porterait sur le judaïsme. Je dis qu'il y a beaucoup de philosophes du langage qui ne font pas de langage, c'est toujours étrange. Beaucoup de philosophes du droit qui ne font pas de droit. Dans un colloque de philosophie du droit, ils se demandent qu'est-ce qu'une règle. Mais les juristes ne se posent pas nécessairement cette question à ce niveau d'abstraction. Donc souvent, les philosophes du droit ne font pas de droit. Eh bien, je rêve parfois d'une philosophie juive qui aurait un lien avec le judaïsme, mais pas un lien avec un judaïsme amputé du droit, pas un lien avec un judaïsme déjà christianisé, paulinisé, P-A-U, hein. Parce que voilà, l'autre participe passé existe aussi, pas un judaïsme qui couvrirait qui présenterait tous les genres littéraires, sauf le droit, non. Une philosophie qui porterait sur le judaïsme en tant que c'est un droit. Objection, ce n'est pas qu'un droit. Bonne objection, mais on peut lever cette objection. C'est ça le droit. Le droit n'est pas qu'un droit. L'idée que une chose est du droit ou ne l'est pas, elle est simpliste. Et la tâche est difficile parce qu'il faut lutter d'une part avec les juristes qui, pour certains, n'envisagent pas que la religion puisse être juridique. Puisque, évidemment, la dissociation, c'est entre droit et religion. La conséquence de la combinaison occidentale d'un droit sécularisé et d'une religion déjuridicisée, c'est que droit et religion s'opposent et constituent des catégories séparées de manière étanche. Si c'est le cas, ça va être très compliqué pour un juriste ou un théoricien du droit de poser un regard sur le judaïsme qui ne soit pas le judaïsme uniquement comme religion au sens, parce qu'évidemment c'est une religion, mais une religion au sens religion, une variété du christianisme, donc une religion non chrétienne. Beaucoup de gens se demandent si le judaïsme c'est une religion et se disent non, c'est pas une religion. Je ne crois pas que ce soit uniquement là le problème. Je crois pas que ça change quoi que ce soit de dire que c'est une religion ou pas. Pour peu qu'on puisse distinguer dans notre typologie entre les religions juridiques, judaïsme et islam, et celles qui ne le sont pas. Restons dans les religions abrahamiques. Donc le christianisme. Du coup, on peut utiliser le mot religion de manière transparente. À la limite, peu importe ce à quoi il renvoie. Mais ce qui importe, à mon avis, c'est si on parle du judaïsme, on en parle comme on veut. Mais ce qui m'importe, c'est de me donner les outils pour parler du judaïsme sans en parler comme d'un christianisme, comme une variété de christianisme. Et si, alors je vais faire une petite anecdote, si dans les colloques, quand on propose une communication, on a droit à anthropologie, philosophie, littérature, cuisine, histoire, et pas droit, c'est que Paul a gagné. C'est que Paul a réussi à convaincre même les chercheurs en judaïsme que dès qu'on parle du judaïsme, on parle d'anthropologie, de littérature, de tout ce que vous voudrez, toujours en omettant, évidemment, l'éléphant dans la pièce, qui n'est même plus dans la pièce, à savoir que c'est un droit. Alors, sauf si on me dit que c'est un colloque sur le droit juif, et du coup, les musicologues, pourquoi ils n'étudieraient pas aussi les règles, les nombreuses règles qui régissent la composition et l'exécution des musiques ou des poèmes, des piyoutines? Pourquoi pas? Est-ce que ça nuirait à ce point à la compréhension du texte? Est-ce que dans la littérature, ce ne serait pas une idée d'enseigner un petit peu le droit talmudique? En histoire, combien d'historiens n'ai-je pas lu qui vous expliquent qu'à la Renaissance, comme a été développé le Eteriska, qui est une technique, un montage, qui permet de faire quelque chose qui n'est pas du pré-intérêt. D'accord? C'est bien clair? Ce n'est pas du pré-intérêt. Mais ça permet tout de même à une personne de verser 100 euros à une autre. Ça permet à A de verser 100 euros à B pour que B, l'année suivante, verse 120 euros à A. Mais ce n'est pas du pré-intérêt. D'accord? Ça ressemble, mais ce n'est pas.
Oui, en quoi ça ne l'est pas?
En quoi ça le serait? il faut regarder de près en quoi consiste le pré-intérêt. Bon, alors je ne vais pas ici, devant vous, expliquer très concrètement comment ça fonctionne, mais en gros, c'est un mélange de prêt, donc sans intérêt, et d'investissement. L'investissement, on peut perdre, mais avec quelques clauses qui font qu'on s'assure dans une large mesure que 120 euros seront versés. D'accord ? Donc à la Renaissance, on met au point ce montage. Le droit est artificiel, la morale est naturelle. Le droit est artificiel. Ceci est un montage typiquement juridique. Il y a un interdit du pré-intérêt. Le contournement est une technique typiquement juridique. La harama est typiquement juridique. L'évasion fiscale est une infraction. D'accord ? Ceci n'est pas un pré-intérêt. Ceci cosmétiquement ressemble à un pré-intérêt. Mais si vous vérifiez comment ça fonctionne, ce n'est pas un pré-intérêt. Que font les historiens qui vous décrivent les communautés juives à la Renaissance ? À la Renaissance, les décisionnaires ont décidé d'abroger l'interdiction du pré-intérêt. Mais était-ce si compliqué de lire un article qui expliquait la manière dont cela fonctionne pour éviter de dire quelque chose qui est à ce point faux ? C'est-à-dire que l'absence d'enseignement du droit talmudique impacte toutes ces disciplines, qui sont les disciplines dans lesquelles on peut candidater dans les colloques d'études juives. Et la discipline qui chapeaute toutes les autres est absente. Et parfois même, on s'entend dire que ce n'était pas le lieu d'un colloque de développer des points juridiques talmudiques. C'est vraiment... On a vraiment atteint une situation qui n'est pas de non-retour, mais qui est extrême. Notre rapport... Enfin, si je ne vous ai pas convaincu, ou en tout cas si vous n'étiez pas convaincu que notre rapport est à minima ambivalent avec le droit, alors que c'est que j'ai raté un des buts de mon exposé, en tout cas je crois que, un, ce rapport ambivalent touche l'Occident, deux, il touche les juifs d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'il ne touche pas que les juifs laïcs, ou non pratiquants, je ne dis pas que c'est la même chose. Il s'immisce également à l'intérieur du Dvar Torah, à l'intérieur de notre rapport à la synagogue, au droit. Il nous contamine. Nous sommes pétris de ce rapport ambivalent au droit. C'est presque une concession. C'est pour ça que, enfin, une des raisons pour lesquelles quelqu'un qui doit prendre la parole dans un lieu communautaire, il a le choix entre une agada séduisante, édifiante, qui n'a rien à envier à un sermon de Bernard de Clairvaux. Bon. Et un discours sur des règles de droit qui semble un petit peu hors de propos, surtout si c'est une simcha, un événement joyeux, qu'est-ce qu'il va faire? Or, ce qui est étrange, et c'est relevé par Chaim Zeiman dans un très bon livre sur la théorie de la halakha, c'est que dans les événements, donc c'est un dayan américain, Zeiman, et le Rav Zeiman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans les événements les plus joyeux du judaïsme, eh bien, on expose un point de droit. Un point de droit, et il essaie de se demander si, dans une naissance ou un mariage, ou que sais-je, une communion dans le monde non-juif, est-ce qu'on aurait idée d'inviter le grand-père pour développer un point de droit fiscal, pour célébrer, pour célébrer la naissance ou le mariage? Non. Dernier auteur que je voudrais souligner, le Rav, qui est également un Dayan, Michael Breude. Ah, j'ai bien dit, il est là. Breude. Il a écrit un article où il invite tout le monde à enseigner le raisonnement juridique. Mais il n'écrit pas que pour les Juifs. Il dit à l'université, ce serait une très bonne chose d'enseigner le raisonnement juridique parce qu'en fait, il est étonnamment absent. Donc, je partage totalement son constat. Et il ajoute, bon, si vous voulez, moi, je dispose déjà de toute une technique le raisonnement talmudique, mais vous pourriez développer la vôtre. Mais il appelle les gens à renouer avec le raisonnement juridique, pas seulement avec la loi, mais avec le raisonnement juridique. Et vous savez, en droit, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur l'argumentation juridique. Et je me suis demandé pourquoi. Il y en a par Perelman, il y en a eu un peu plus récemment, mais c'est comme si c'était gênant. Comme si les juristes étaient gênés, en particulier en francophonie et dans le monde germanique, par l'idée même de raisonner. D'ailleurs, la Cour de cassation ne présente pas les opinions minoritaires. Tellement il y a quelque chose de gênant, pas seulement dans la loi, mais dans tout le processus qui conduit à la décision. Alors que dans le monde anglo-saxon, pour tout de même vous dire quelque chose du monde anglo-saxon, la comparaison, eh bien, les juges, par exemple, de la Cour suprême, signent leurs opinions séparées, qu'elles soient dissidentes ou concordantes, et on entretient un rapport beaucoup plus intense, beaucoup plus présent avec le droit. Le droit est beaucoup plus présent aux États-Unis qu'il ne l'est ici. Sans doute parce que c'est un pays calviniste et que la francophonie est plutôt catholique, et l'Allemagne étant luthérienne, mais sur ce point très catholique. C'est-à-dire que le raisonnement doit être caché. Ce qui compte, finalement, c'est une réduction, de nouveau, de tous les processus argumentatifs du droit à la loi seule. C'est une promotion de la loi au détriment de la doctrine. La doctrine étant une autre source du droit. Il y a la loi, la jurisprudence, la doctrine et la coutume. Et la doctrine est une source du droit d'autant plus capitale pour nous que, à mon avis, le droit talmudique est un droit de part en part doctrinal. C'est le droit du raisonnement, le droit de l'argumentation, c'est le droit où même dans le livre de prière du matin, on récite des règles d'argumentation, des règles d'interprétation. J'ai demandé il n'y a pas longtemps à mes étudiants quelles étaient les règles d'interprétation du Code civil, est-ce qu'il y en a ? Le Code civil suisse commence par les règles d'interprétation. Bon, il a pris 100 ans de plus aussi hein, pour être publié. Bon, il ne savait pas. Ben, s'il n'y en a pas. Les règles n'ont pas été codifiées, sauf les règles des contrats. L'interprétation des contrats sont dans le Code civil. Mais les règles d'interprétation de la loi elle-même n'ont pas fait l'objet de la codification. Elles sont restées dans le discours préliminaire. Mais donc elles n'ont pas été codifiées. Donc nous sommes en francophonie en plus, pas seulement en Occident, mais en francophonie, dans l'endroit où il est le moins plausible que l'on puisse entretenir un rapport pacifié et fécond avec l'argumentation juridique, avec le droit. Et tant que tel est le cas, nous devrons fournir un effort considérable pour entretenir, avec les sources talmudiques, un rapport beaucoup plus intime. Et donc, j'ai essayé de montrer que cette séparation, cette dissociation, cette démarcation touche de plein fouet l'université, touche également les foyers, chacun des foyers, et traverse également l'individu, qui lorsqu'il est juriste, il est juriste une partie de la journée. Mais a priori, il n'est pas juriste dans sa famille. J'ai connu beaucoup d'enfants de profs de droit qui n'ont rien reçu. Je ne parle pas de l'héritage, je parle de... comme enseignement. Ça n'avait pas de soi pour un prof de droit d'enseigner le droit à ses enfants. Donc même les juristes, même les individus profs de droit ou juristes sont concernés par cette dissociation. Et nous répliquons, nous réitérons cette démarcation qui, à mon avis, nous empêche d'entretenir un rapport plus serein et plus fécond avec le judaïsme.
Une question. Plus trivialement, vous qui respectez donc le droit et qui en tenez compte, en quoi est-ce que ça modifie votre comportement en milieu familial par rapport à quelqu'un qui n'en tient pas compte ? Donnez-nous un exemple précis.
Oui, d'abord je corrige un tout petit peu, j'ai pas dit que je respectais le droit, mais...
Mais vous qui connaissez cette importance, en quoi est-ce que dans le quotidien, ça oui. change votre façon de vivre en milieu familial par rapport à... Donnez un exemple précis. La loi, je vois, hein. la loi, je vois très bien en quoi ça va modifier
oui.
la façon de me comporter en milieu familial par rapport à un voisin qui, lui, frappe sa femme ou de façon illégale. Vous, en quoi est-ce que ça va changer votre quotidien ?
Vous parlez de la loi en général, le droit en général ou
le droit
talmudique ?
Ce que vous défendez ici, le droit.
Oui, mais je ne défends pas le droit, je défends un rapport au droit.
Rapport au droit. Donc en quoi le rapport au droit, non talmudique, va changer votre vie quotidienne ?
Ah, non talmudique. Donc on parle du le droit français, par exemple.
Le droit français, celui qui a disparu, celui dont on ne veut pas entendre parler.
Il n'a pas disparu, il est confiné.
Celui qui est confiné, dont on ne veut pas entendre parler. Donc supposons qu'il ne soit pas confiné,
oui.
puisque vous lui donnez une importance...
Oui.
Comment ça va changer le quotidien par rapport au monde ?
Voilà. Bon, alors, pour vous répondre très concrètement, ce que j'essaye, peut-être maladroitement, de faire chez moi, c'est de parler du droit talmudique, de manière, distribuée dans la journée. Pas uniquement pendant l'heure où on ne ferait que ça. Pour le droit français ou du pays où on vit, c'est moins évident parce qu'il s'y prête moins. Par exemple, le code civil n'est pas écrit pour les enfants. Il a été mis en vers, en alexandrin. Bon, on peut lire quelques articles. Hein. Mais il n'est pas fait pour s'adresser à des enfants. Donc déjà, le droit talmudique est conçu de part en part pour s'adresser aux enfants. Donc, le simple fait d'évoquer certaines règles, je ne sais pas, je peux vous donner plein d'exemples.
Un exemple.
Mais... ça gêne beaucoup de parents, beaucoup de papas, que leur fils ou leur fille l'appellent par leur prénom.
Oui.
Ça fait un peu chose, ça fait bizarre.
Oui, il y a des familles, on appelle par le prénom.
Oui.
D'autres, on dit papa, et d'autres, on appelle par le nom, et on vous voit.
Oui.
D'accord. Là, vous allez établir une loi. Plutôt une règle talmudique. Vous mettriez quoi en pratique ? Vous conseilleriez quoi ? Vous voudriez en parler dans la famille avant de décider quoi ? En quoi ça va changer votre quotidien ?
Mais déjà qu'on en parle, déjà qu'il y a toute une granularité de toutes ces règles. Dans le judaïsme, on n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom. Et Maïmonide dit qu'on n'a même pas le droit d'appeler quelqu'un d'autre par le prénom de son père. Et puis il a sorti cette règle d'exception. Donc déjà, on peut débattre de la manière dont on va parler des gens. Pour peu qu'on suive cette règle. Pour peu qu'on suive cette règle. Donc, un exemple précis. Par exemple, j'ai demandé à mon fils, comme tout bon papa, j'ai demandé de l'argent à prêter, parce que je devais acheter quelque chose. Et je lui ai demandé s'il voulait que je lui rembourse la somme ou plus, puisqu'il serait privé. Et à mon grand étonnement, ça doit être l'influence de sa maman, il a dit non, il n'y a aucune raison que je reçoive plus. Et puis on a parlé de ça. Pourquoi je pourrais... Est-ce que je peux ? Est-ce qu'il lui peut me demander plus ? Est-ce que moi j'ai le droit de lui donner plus ? Puisque dans le droit talmudique, le prêt intérêt, il est interdit de percevoir, mais il est tout aussi interdit de donner l'intérêt. Donc on a eu un débat autour de cela, mais c'est plutôt une tonalité, c'est plutôt une valence, c'est plutôt l'idée que ce soit disponible à n'importe quel moment. De la même manière qu'on peut parler d'un peu de géographie, un peu d'histoire, eh bien que le droit fasse partie, à minima, de la culture générale. Je serais gêné que mon fils ne sache pas quelle est la capitale de l'Allemagne, à partir d'un certain âge. eh bien, je serais gêné aussi qu'il ne sache pas la différence entre code civil et code pénal. Je ne vais pas attendre qu'il reçoive quelque chose qu'il ne recevra pas de l'école ou de l'université, sauf s'il fait du droit, chose qui ne me déplairait pas, un enseignement là-dessus. Donc, rendre présentes les catégories juridiques, déjà ça, c'est facile à faire. Ce n'est pas de la physique quantique. Je veux dire, c'est assez facile. Tous les romans, tous les livres parlent de droit, en vérité. C'est-à-dire rendre plus saillantes les références au droit. Et surtout les discuter. Et demander comment tu... souvent, je demande à mes enfants comment ils voudraient... Quelles règles ils voudraient que je leur donne. Pour qu'ils ne se disputent pas, par exemple. Donc ils doivent... comme on fait en TP de droit... j'avais une collègue qui en TP de droit, TD de droit, je ne sais plus comment on dit. Les étudiants devaient écrire une constitution. Mais peut-être ne pas attendre d'être en TD de droit, travaux dirigés de droit, pour écrire une constitution. Puisqu'il y a plusieurs manières de résoudre un problème. Mais ce sont des problèmes juridiques. Donc si je veux qu'ils ne se disputent pas, quelles règles on peut, sur quelles règles est-ce qu'on peut s'entendre? Je pourrais les imposer. Je pourrais les trouver dans un livre. Mais ça ne m'intéresse pas tant de trouver les règles les plus efficaces que de les convier à réfléchir juridiquement. En anglais, on dit « thinking like a lawyer ». Raisonner juridiquement, c'est une façon de réfléchir qui peut servir dans toutes les situations. Donc ce serait, pour répondre avec un adverbe, ce serait progressivement et régulièrement. En fait, naturellement. Pour moi, l'idée, ce serait que le droit soit à table. Alors évidemment, dans les familles religieuses, le droit est à table. C'est à un moment donné où on parle de la halakha. Mais c'est souvent, pas toujours. Mais ça, on court le risque parfois que ce soit confiné. Et est-ce qu'on s'adresse à tous les enfants lorsqu'on parle de halakha? À mon sens, oui. Mais ce n'est pas évident de s'adresser à des enfants en parlant de halakha, sauf si on a vraiment réussi à leur transmettre non seulement une connaissance, mais un goût. Parce qu'on peut transmettre une connaissance sans transmettre le goût. Comment transmettre à des enfants le goût de raisonner juridiquement sans pour autant en faire des juristes? C'est ça l'idée. Et c'est, je crois que c'est typique du judaïsme. Ce n'est pas un hasard s'il y a tellement de juristes issus du judaïsme, religieux ou laïcs, y compris ceux qui n'ont pas été exposés au Talmud. Il semble qu'il y a quelque chose qui survit de manière épigénétique au fait d'être exposé au raisonnement talmudique. David Weiss Halevni disait que, à l'université, dès qu'on parlait du Talmud, on parlait de la Haggadah. Dans une des annexes de Pshat et Drash, il explique qu'on devrait, de son point de vue, mettre beaucoup plus l'accent sur tout le corpus qui n'est pas de la Haggadah. Parce que, si vous voulez, on peut introduire les sources juives sans accorder une once au raisonnement juridique. Il suffit de parler que de Haggadah. Et donc, si on ne parle que de Haggadah, c'est évidemment du judaïsme qu'on parle. Mais on en parle de manière isomorphique, à la manière dont les chrétiens parlent de leur religion. C'est un choix. Mais il a un coût. Parce qu'on transmet, on court le risque de transmettre l'allergie au droit. Si on transmet une allergie au droit, eh bien, on génère des personnages dissociés que décrit Moshe Koppel dans son ouvrage. Pas Shimon, mais Heidi d'un côté et le garçon qui revient de la Shiva de l'autre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai fini.
Ok. Alors, ouais.
En parler de façon chrétienne, et si je remplace le terme agadique par parler du judaïsme en termes philosophiques, est-ce que vous aurez la même conclusion?
Si la philosophie juive est une philosophie qui s'occupera de tout ce que le judaïsme fait sauf du droit,
ce qui n'est pas ma décision, Mais si les ouvrages publiés en philosophie juive ne se confrontent jamais à la question du droit, alors oui, je n'ai pas dit que c'était chrétien, j'ai dit que c'était isomorphe à la lecture, une clause de prudence, à la lecture chrétienne. Mais moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une philosophie juive qui porte sur le judaïsme en tant que c'est un droit. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne renonce à rien. C'est-à-dire, une fois qu'on prend la mesure du caractère juridique du judaïsme, on ne renonce à aucun Midrash Haggadah, à aucun pan de la Kabbale, on ne renonce à rien. C'est important, philosophie du droit, ça ne veut pas dire qu'on expulse un quelconque outil. Ça veut juste dire qu'on comprend la nature, enfin qu'on comprend de cette manière la nature du système. Donc on ne perd rien et on gagne, à mon sens, quelque chose d'important.
En tout cas, avant de passer à la séance question, je voulais vraiment te remercier pour la très bonne présentation de ton exposé. Et en plus, je suis très heureux parce que j'ai l'impression que voilà, au bout de... c'était vraiment aussi un exposé qui manquait dans notre séminaire. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, ça c'est